BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce club BFM Crypto avec mes invités. On va parler de Bitcoin, on va parler des dernières news, on va parler aussi de solidarité, de philanthropie, de blockchain dans cette émission. Mes invités aujourd'hui, Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School. Bonjour Nathalie.
Bonjour Sandra.
Face à vous, Mylène Massé, responsable philanthropie chez Planète Enfants et Développement. Bonjour Mylène.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alexandre Stachenko est à vos côtés, directeur de la stratégie et de la communication chez Bitstack. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Sémi Baragan, fondateur et CEO de Start Mining. On est très nombreux sur ce plateau aujourd'hui. Il fallait du monde, du beau monde pour faire cette émission. Je suis ravie de vous retrouver. Vous continuez à nous écrire sur notre adresse crypto au singulier @bfmbusiness.fr. Vous le savez, on répond très régulièrement à vos questions, notamment le jeudi. BFM Crypto, le club, c'est parti. On va parler de philanthropie très longuement. Philanthropie, j'ai du mal à dire ce mot, hein. On va le noter. Très longuement dans cette émission. Avant cela, une annonce de la part de Bitstack. Alexandre, on commence par vous.
Oui, alors on avait annoncé notre série A début décembre de l'an dernier. On a levé de 15 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs institutionnels. Et on a eu beaucoup de demandes à ce moment-là de personnes de la communauté Bitstack qui voulaient participer, qui nous ont demandé, mais vous avez levé l'argent, mais on aimerait bien devenir aussi actionnaire. Comment on fait pour s'impliquer plus? Donc, on a réfléchi, parce qu'on s'est dit, finalement, est-ce qu'on le ferait pas? Est-ce qu'on lancerait pas une campagne de financement participatif? Donc, c'est ce qu'on a annoncé la semaine dernière. On a lancé une campagne de financement participatif avec Bitstack. On est dans le meilleur momentum, je dirais, pour le dire. On avait donné des chiffres au moment de la série A. On a à peu près 300 000 utilisateurs sur Bitstack qui ont épargné un peu plus de 300 millions d'euros. D'un point de vue des revenus et du volume aussi, on a multiplié le revenu par 2,5 sur l'année 2025. Et puis, on a aussi la carte qu'on essaye de lancer. Donc, on l'a diffusée auprès de 5 000 utilisateurs. On a 200 000 personnes en liste d'attente pour cette carte qui est très attendue. Et on a notre expansion en Europe qui a commencé depuis janvier. On a à peu près 15 000 nouveaux utilisateurs en Europe. Et donc là, on s'est dit, c'est le moment pour le faire. On va lancer cette campagne de financement participatif. Et donc, ça a été fait jeudi. Et depuis, on a eu...
Depuis, comment ça se passe? Depuis, comment ça a marché?
Extraordinaire. On a un peu plus de 15 000 personnes qui se sont mobilisées et qui ont... déclarer une intention d'investissement qui dépasse aujourd'hui 16 millions d'euros. Donc en fait, on a déjà dépassé la série A en tant que telle. Alors ça reste des intentions pour l'instant et donc il faut convertir évidemment derrière. Mais c'est à titre d'exemple, la plateforme avec qui on travaille pour faire ça, qui s'appelle Crowdcube, c'est la plateforme leader sur le financement participatif en Europe. On est la campagne la plus réussie entre guillemets depuis le début de l'année sur le nombre d'intentions, l'argent entre guillemets qui a été mis en intention d'investissement. Donc pour l'instant, on s'est encore ouvert à la déclaration d'intention. Donc évidemment, si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur l'application ou sur le site Bitstack. Mais on va annoncer dans les prochains jours quand aura lieu la date vraiment pour pouvoir investir. Mais en tout cas, on est vraiment très surpris et très content de l'engouement qu'il y a autour de cette annonce.
Dernière question, c'est un bon acteur français, Bitstack, qui a progressé, il est venu dans la BFM Academy l'année dernière, encore à un stade assez... c'était une plus petite entreprise. Pourquoi c'est important de faire ça maintenant, cette levée de fonds pour le développement 2026?
Alors, il y a une raison structurelle, à savoir qu'on est une application qui vise à démocratiser le Bitcoin en France et en Europe.
Au départ, c'était l'arrondi, l'arrondi en crypto.
Qui reste aujourd'hui aussi un des moyens les plus simples d'onboarder, de rentrer dans Bitcoin, c'est en fait de le faire de façon indolore. Donc, on connecte sa carte et à chaque arrondi, ça épargne en Bitcoin et on s'en rend même pas compte. Donc, ça, c'est un vecteur de diffusion qui est très important. Et donc, il y a cette partie, je dirais, structurelle, à savoir pour démocratiser, c'est encore mieux si les gens font partie de l'aventure et donc sont incités, entre guillemets, à participer à cette démocratisation. Et puis, il y a le moment, je dirais, qu'on est juste après la série A. Dans une entreprise, il y a plusieurs phases de développement. Il y a la seed, la série A, la série B, la série C, etc. Après une seed, en fait, on teste le marché, on regarde si le produit fonctionne. La série A, c'est le moment où on décolle. C'est le moment où on envoie les ressources pour développer le marché, pour développer l'acquisition. Donc, j'allais dire, c'est vraiment le bon moment pour le faire. Un peu plus tard, ce serait peut-être trop tard parce qu'on serait sur une phase d'entreprise qui serait peut-être trop mature, entre guillemets. Un peu plus tôt, ça aurait été trop tôt avec une prise de risque importante pour des particuliers. Donc, c'est le bon moment pour le faire. Et on le fait que 3 mois après la série A, ce qui nous permet de faire quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'on donne aux investisseurs les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels qui ont mis dans la série A il y a quelques mois. Donc c'est vraiment le moment pour le faire.
Voilà, c'est noté et on va prendre le pouls de cette opération au fur et à mesure, évidemment. Je vous l'ai dit en titre, on va parler de philanthropie. Aujourd'hui, avec vous, Mylène, vous portez un projet très intéressant. Déjà, vous travaillez à la philanthropie pour Planète Enfants et Développement. Rappelez-nous ce que fait cette association.
Alors, on est une association qui existe depuis plus de 41 ans maintenant, et notre mission est de protéger et d'éduquer les enfants les plus vulnérables, et cela dans 8 pays, notamment en France, en Asie du Sud-Est, en Inde, au Népal, mais aussi en Afrique, au Burkina Faso et au Togo.
Vous avez combien de bénéficiaires par an pour...
À peu près 16 000 bénéficiaires par an. Donc, des enfants, on part du principe qu'il faut protéger et éduquer l'enfant, mais on fait aussi un travail où on accompagne les familles, les femmes vulnérables aussi. Donc c'est tout l'écosystème autour de l'enfant qu'on essaye d'accompagner au mieux.
Donc en Asie, en Afrique, en France, vous l'avez dit, on va parler évidemment de crypto dans un instant, de blockchain, mais donnez-nous quelques exemples de programmes que vous développez, que vous avez développés ces dernières années pour ces pays-là.
Alors on en a plutôt pas mal, parce qu'en 41 ans, vous imaginez le nombre de programmes. Oui. Je peux vous parler notamment de ce projet qui nous tient à cœur et qui fait sens ce soir, enfin aujourd'hui avec la crypto. Par exemple, ça fait 3 ans qu'on a lancé un programme de protection contre l'exploitation des enfants. Donc dans des zones vraiment très où les familles sont très fragilisées, où les enfants sont propices et sont en danger de traite. Donc ce programme, c'est depuis 3 ans de mettre en place premièrement des foyers pour accueillir les enfants vraiment très vulnérables, mais aussi d'accompagner les parents. Je vous donne un exemple très concret. J'ai été moi-même sur le terrain à Poy Phet, qui est une ville frontière avec la Thaïlande. Je discutais avec une maman qui m'expliquait que elle aimerait bien effectivement pouvoir mettre ses enfants à l'école, elle peut les mettre, mais elle me dit, je vis au jour le jour, et chaque jour on a besoin d'aller chercher de l'argent, donc mes enfants doivent aussi aller chercher de l'argent. Donc vous voyez, c'est tout un tas. Donc on a tout un accompagnement avec des travailleurs sociaux locaux, nous on travaille avec des partenaires sociaux et locaux qui vont reprendre de zéro un petit peu avec la famille en disant de quoi vous avez besoin, quels sont vos besoins, et essayer de sortir la tête de l'eau et redonner un peu une autonomie et un pouvoir d'agir à ses enfants et à ses familles.
Donc c'est ce projet Pégase, développé en Asie du Sud-Est, pour protéger ses enfants, leur éducation et leur famille, pour pouvoir continuer cette éducation. Dans le cadre de ce projet Pégase, on parle de blockchain, parce que la philanthropie commence effectivement à arriver sur la blockchain. Là, vous allez lever concrètement des fonds en Bitcoin. Comment ça va se passer? Quelle est l'idée? D'où est venue cette idée d'un coup se mettre sur la blockchain?
Alors, déjà, moi, mon travail, Sandra, la philanthropie, c'est de faire des ponts entre un mécène et un donateur qui a envie d'agir. Ça semble assez évident. Aujourd'hui, les valeurs de la blockchain, elles matchent parfaitement avec les valeurs de la philanthropie.
Ouais.
Le Bitcoin, déjà, je pense que là, Alexandre, tu me contrediras ou pas, mais le Bitcoin a été créé pour redonner du pouvoir aux individus. Et ça matche complètement avec les valeurs de notre ONG, redonner du pouvoir aux familles et aux enfants les plus vulnérables. Donc, pourquoi se priver d'un écosystème Bitcoin, d'une technologie blockchain qui peut répondre à des besoins? D'une, la rapidité. Quand nous, on envoie des transferts bancaires sur le terrain, ça prend plusieurs semaines. Là, le donateur, en un clic, il a le pouvoir d'agir. Deux, la transparence et la traçabilité. La blockchain, elle offre cette traçabilité. Et ça, c'est le pacte de confiance ultime avec un donateur. Mmh. Et enfin, l'autonomisation des familles et des enfants qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, ce projet-là, par exemple, il était très compliqué à mettre en place. On veut donner une allocation mensuelle pendant 6 mois, bien sûr, encadrée par nos travailleurs sociaux sur place, à des familles qui, justement, ont besoin de cette petite allocation pour pouvoir sortir la tête de l'eau, pouvoir ne pas penser à se dire qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui, mais se dire comment je peux faire pour retrouver. C'était très compliqué de faire du cash transfer au niveau institutionnel.
Qu'est-ce qui est compliqué concrètement dans le cash transfer?
C'est le fait que ils sont pas très fans, les institutions ou les bailleurs publics ne sont pas très fans qu'on envoie directement du cash. On se dit la traçabilité ou autre. Là, la blockchain et le Bitcoin apparaît comme la solution. Donc on avait nous un projet où on n'avait pas de solution, et aujourd'hui, grâce au Bitcoin et à tout l'écosystème, on va pouvoir permettre à des familles d'avoir cette allocation qui est à Poy Phet, donc vraiment une ville à la frontière thaïlandaise,
oui,
va pouvoir récupérer et offrant après la monnaie l'argent dont ils ont besoin et cette petite allocation. Donc vous voyez, c'est un problème, la blockchain nous apporte la solution.
Expliquez-nous techniquement comment ça va se passer déjà pour le donateur. Je décide de donner pour cette opération Pégase, comment ça se passe, je vais où?
Alors, on a évidemment, on va faire cette levée de fonds le 26 mars. Donc déjà, la première chose, on s'est entouré de prestataires et de partenaires, donc avec Lizzy, qui est un peu notre hub pour réceptionner.
C'est l'infrastructure de paiement, Lizzy.
Exactement.
Hein.
Oui. On accepte le Bitcoin, on accepte aussi d'autres monnaies.
Oui.
Le but étant de recevoir, et nous, en tant qu'ONG, on doit être dans la conformité. Donc ça, Lizzy nous offre ça, parce que les ONG, on n'a pas forcément, on ne peut pas vérifier chaque transaction. Donc on a cet aspect-là ils le font pour nous, donc ça c'est assez chouette. Et après, on travaille avec un super partenaire également qui s'appelle Koalapé, qui est une solution qui a été créée par des humanitaires et qui s'occupe de mettre on-chain, c'est-à-dire qu'on passe par leur solution, ils font on-chain la ils amènent on-chain sur le terrain, la crypto. Et ils s'occupent aussi de faire un travail de pédagogie avec le partenaire ou les familles, parce que le but c'est d'arriver jusqu'aux familles et que chaque famille, pour leur expliquer, faire un peu d'autonomisation aussi, pour autonomiser. Et après, sur place, ils ont des partenaires où ils peuvent faire le off-ramp.
Ça sécurise les fonds, ça va plus vite.
Exactement.
Ça permet d'aller vers le but plus rapidement.
D'aller jusqu'au et ça coûte moins cher, et d'aller jusqu'au dernier kilomètre. Et c'est ça qui est chouette, je pense, que dans la philanthropie, les gens ont besoin d'avoir un pont direct. Et là, c'est assez génial de se dire que le donateur qui fait un don en clic, on sait qu'en quelques secondes, à l'autre bout de la terre, à Poipet, où il y a des familles vulnérables, elles vont pouvoir recevoir ce don.
C'est intéressant parce que est-ce que ça met pas à mal le système d'intermédiaires qui fonctionne actuellement dans ces organisations-là, et le temps que ça prend, et effectivement les réglementations que ça prend. Quand on parle en tant que donateur, on est très content que ça aille beaucoup plus vite à destination, mais est-ce que vous n'avez pas justement rencontré des difficultés à ce niveau-là ?
Je pense qu'il ne faut pas... Nous, en tant qu'ONG, on doit être inclusif. Donc, on doit se dire que de toute façon, il y a un nouveau système.
Ouais.
Ce qui est encore peu connu, surtout en France. Mais je pense que pourquoi se priver de ça ? Donc, au contraire, on peut améliorer et montrer, mais les deux ne sont pas incompatibles. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a besoin du système traditionnel en tant qu'ONG. Mais je pense que là, on pose la première pierre. Et pourquoi pas la développer, la scale-up sur tous nos projets, sur tous les pays, et que ce soit un peu plus systématique. Mais il faut faire nos preuves.
C'est hyper intéressant. Nathalie Janson, Alexandre Stachenko, vous êtes ambassadeurs tous les deux de cette opération. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette manière de faire, cette nouvelle façon de faire de la philanthropie, auxquelles les ONG, finalement, sur lesquelles elles se mettent de plus en plus, hein. Nathalie.
Oui, alors moi, j'ai été contactée effectivement via une étudiante que j'avais eue à Sciences Po qui m'a contactée en me disant « je fais mon stage pour cette ONG ». Et moi, comme j'ai toujours vu le Bitcoin comme une porte sur la liberté pour les populations qui étaient plutôt financièrement réprimées, et en plus je trouvais que c'était la façon, il y a pas de corruption possible. Donc moi j'ai toujours beaucoup été intéressée par le financement et la philanthropie pour aider les pays en développement, mais j'ai bien compris très vite que en fait le bas qui blesse, en fait, c'est qu'en fait on sait très bien que sur le terrain on ne sait pas où l'argent va, il est souvent gâché. Et c'est vrai qu'avec, quand j'ai découvert Bitcoin, je m'étais dit tiens, c'est effectivement aussi une façon de pouvoir prouver la transparence. Et je pense que beaucoup de personnes qui seraient potentiellement donateurs, mais qui ont, après toutes les histoires qu'on a pu entendre sur
le détournement,
etc., se disaient après tout, ça sert à quoi de donner si de toute façon ça ne va pas jusqu'au bout. Et donc effectivement, quand on m'a contacté, j'ai dit pour moi Bitcoin c'est vraiment ce serait potentiellement la solution idéale. Alors évidemment, pour le moment, elle n'est pas déployée dans l'intégralité aussi, dans l'accès aussi immédiat. Mais je pense qu'effectivement, c'est le début d'une solution qui, on l'espère, va pouvoir être développée. Mais en effet, Bitcoin est vraiment ce qui permet de ne plus se poser de questions sur quels sont les intermédiaires, comment ça va être mal utilisé, est-ce que les familles vont bien recevoir. Là, en fait, vous n'aurez plus de doute. Et je pense que c'est vraiment une solution qui répond en tout point.
S'assurer de la traçabilité.
Exactement.
Le plus possible. Mmh. Alexandre, pour vous.
Pas grand-chose à rajouter. Alors moi, je n'ai pas été contacté par l'étudiante, mais par Nathalie directement, finalement, par effet de capillarité. Je pense qu'il y avait un écart entre les convictions que Nathalie, moi, et puis d'autres personnes, on peut avoir effectivement sur le caractère très émancipateur de Bitcoin, oui. Cette liberté, le rendre le pouvoir aux individus, le fait de pouvoir avoir de l'argent et d'être inclus même dans la mondialisation financière sans avoir besoin de passer par un intermédiaire à qui il faut demander la permission, qui va scruter toutes les transactions, etc. Il y a toujours eu cette conviction qui a été doublée des faits de l'adoption de Bitcoin, c'est plutôt dans les pays en voie de développement, plutôt par les populations
marginalisées. Ça garde tout son sens dans ces pays-là.
Oui, exactement. Oui, et par contre, quand je regardais notamment pour la France, en ce qui me concerne, parce que c'est là que je suis, il y avait un écart entre l'appropriation de cette réalité-là et le monde de la philanthropie, de l'humanitaire. Et donc, quand Nathalie m'a contacté pour dire que, justement, Mylène s'intéressait au sujet et voulait creuser de bonne foi, de bonne volonté, ce sujet-là, parce qu'il y avait un vrai potentiel, mais qu'il fallait être accompagné par quelqu'un qui connaît le secteur pour savoir quels sont les freins, parce que dans la réalité, il y a toujours des frottements, des choses qui se passent mal, etc. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais de pouvoir montrer que Bitcoin est une force pour le bien sur Terre, et aussi de le faire de façon réaliste, c'est-à-dire en prenant en compte les contraintes du milieu de la philanthropie. On parlait de la nécessité de vérifier qui sont les donateurs, de ne pas financer le terrorisme, etc., qui sont des choses auxquelles on est aussi familier dans le monde des startups et de l'écosystème financier réglementé. Ouais. Et donc, c'était l'occasion de justement mettre à la fois Bitcoin au service de cette cause-là, et moi, mes compétences, au service de le rendre réel pour qu'il y ait moins d'écart entre la réalité partout dans le monde et l'appropriation en France de ces technologies-là pour servir cette cause.
Comment avance la blockchain dans la philanthropie justement ? Aux États-Unis, il y a 70% des grandes organisations caritatives qui acceptent déjà les cryptos. Mmh. En France, on en est où de ce développement-là ? Les balbutiements, j'imagine, on est moins développé ?
On est moins développé. Moi, ce qui m'intéressait notamment, c'était de prendre les vertus de la blockchain justement pour qu'on puisse la mettre, faire une proof of work de ça.
Ouais.
C'est vrai qu'en France, on a beaucoup de plus en plus d'ONG commencent à l'accepter. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de faire l'exercice d'aller d'une partie des dons, les garder pour aller on-chain. Parce que c'est ça l'exercice, c'est de se dire, certes, on pose notre première pierre, mais si ça marche, si les donateurs aussi sont au rendez-vous, comment on peut par la suite déployer à plus grande échelle? Donc je pense que on est encore dans un monde où les deux mondes, la philanthropie et la blockchain, doivent apprendre à se connaître, doivent apprendre à se comprendre aussi, ce que tu disais Alexandre, avec nous, nos impératifs en termes de compliance, de réglementation, et respecter la philosophie aussi de Bitcoin. Donc on est encore dans un monde où, par contre, la chose que je peux vous dire, Sandra, c'est vraiment, j'ai rencontré des gens, des bénévoles, je salue tout mon comité de soutien. Je vraiment salue Blockchain for Good qui fait un travail pour mettre, je vous ai ramené le rapport exprès pour vous, Sandra.
Oui.
Mais du coup, je crois qu'il y a eu un écho assez incroyable où il y a une réactivité de fil en aiguille. On a fait un comité de soutien où il y a des gens très éclectiques, mais en tout cas, Samy aussi, sont venus en me disant est-ce qu'on peut t'aider? Enfin, une générosité. Donc, quand les gens nous disent Bitcoin et philanthropie, ce sont pas deux mots, mais un peu opposé, pas du tout. Au contraire, j'ai eu une solidarité et du temps. Enfin, voilà, vraiment, ça fait sens, finalement.
Et ça fait sens. Et c'est vrai que techniquement, il y a une vraie logique par là. J'aimerais juste savoir pourquoi vous dites seulement une partie des dons va on-chain. Parce que c'est vrai qu'il faut comprendre que la philanthropie, c'est des dons, mais que sur 100% de ces dons, il y a une partie, ça va pour le fonctionnement, ça va pour les intermédiaires, justement. Donc, c'est la partie qui est destinée, finalement, à ces personnes sur le terrain. C'est une petite partie, enfin, c'est la grande partie. Et le reste, ça sert à...
Alors, nous, on prend 15% de frais de fonctionnement et 85% pour la mission sociale, donc ce qui est vraiment bien pour une ONG.
Ouais.
Après, il faut avoir beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'on lance un projet, donc on est sûr de nous parce qu'on a des partenaires solides, on sait que les solutions, elles fonctionnent.
Ouais.
Mais on a aussi, il faut accompagner les partenaires sur le terrain. Donc, on commence avec une partie des dons. Et là, on se dit, OK, si le partenaire comprend bien, si les familles associent bien, mais ça met du temps, surtout qu'en ONG, on est quand même sous-staffé, il faut dire ce qui est. Donc, on doit faire beaucoup avec pas assez malheureusement de personnel et de personnes qui puissent être sur le terrain pour faire le onboarding. Donc du coup, on y va petit parce qu'on ne veut pas se tromper, parce qu'on est sûr qu'en commençant petit avec cette petite partie on-chain, mais si le succès est au rendez-vous, ça va être beaucoup plus facile pour convaincre aussi nos partenaires sur le terrain qui peuvent avoir peur, qui ne connaissent pas. Donc c'est pour ça qu'on commence avec humilité.
Il faut tout tester, vous avez raison, Mylène. On parlait effectivement de vous, Sémi. Vous, c'est grâce au mining que vous générez de la crypto pour les ONG. C'est quoi là le fonctionnement? C'est quoi la différence? Comment vous vous y prenez?
Alors déjà, pour commencer, on a été sensibilisés au sujet lorsque en Islande, on a une association qui a frappé à notre porte. On a une filiale en Islande. On fait du mining là-bas, à grande échelle. Et une association, Save the Children, je ne serais pas capable de dire le nom en islandais, évidemment, qui nous a réclamé des fonds pour aider des enfants qui étaient orphelins, pour financer les activités parascolaires, etc. Ça nous a touchés, évidemment, ça nous a sensibilisés. Mais surtout, on s'est rendu compte d'une faille dans le système, d'une difficulté. C'est qu'à partir du moment où nous, on extrait de la crypto pour le compte de StartMining, ou encore lorsque nos clients nous payent parfois en USDT, au niveau comptable, ça devient complexe de légitimer, de justifier d'une donation. Donc ça nous a donné une idée, qui est celle de passer par le protocole de Bitcoin. Bitcoin, c'est une technologie qui est magnifique. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que le minage de Bitcoin, ça passe par une invention des mineurs qui s'appelle le pool. Le pool, c'est quoi? C'est un agrégat de puissance de calcul qu'on va centraliser pour mieux décentraliser les paiements. Donc, à partir du moment où on a des machines qui minent, que la puissance de calcul passe par un pool de minage, derrière ce pool de minage, on peut mettre un wallet, le wallet propriétaire, on peut mettre un deuxième wallet, le wallet d'une ONG. Et donc, bon, ben voilà, on a voulu en faire un cas d'usage. Et j'ai eu le plaisir de visiter certaines régions du Maroc où j'ai été encore une fois sensibilisé à des choses que j'ai vues, des femmes sans abri, enfin des choses qui m'ont personnellement touché. Et au Maroc, dans notre déploiement, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est, ça coûte pas grand-chose quand on a des bons business plans de se dire, OK, day one, on prend 1 à 2%
une partie
de toute la puissance de calcul et on l'envoie directement sur Wallet. C'est important parce que il n'y a pas d'envergure comptable ou fiscale, il n'y a pas d'enjeu comptable. Ça ne rentre pas dans la comptabilité de l'entreprise.
Ouais.
Ça passe directement par le protocole. Mmh. Et en plus, c'est insassurable. Donc, il y a beaucoup trop de points positifs pour ne pas le faire.
Vous l'avez testé donc en Islande et au Maroc. Ouais. Vous voulez faire ça à plus grande échelle.
À plus grande échelle, tout à fait.
C'est possible de faire ça partout.
C'est possible de le faire partout. Vous savez, en fait, le cas d'usage, il est très simple. À partir du moment où vous avez la matière première de Bitcoin, c'est l'énergie. Pour faire fonctionner Bitcoin, pour l'extraire, c'est l'énergie. À partir du moment où vous avez des poches d'énergie dans le monde, que ce soit en Alberta, en Ontario, en Islande ou ailleurs, vous avez ce qu'on appelle des poches de hash rate. Vous avez des poches de puissance de calcul possible. Pourquoi ? Parce que ce que fait le mineur en réalité, c'est qu'il convertit de l'énergie en Bitcoin. À partir du moment où aujourd'hui, à partir du moment où on sait faire ce que l'on fait avec le protocole, à partir du moment où il y a du Bitcoin quelque part, à partir du moment où il y a du mining quelque part, il est possible, bien sûr, à grande échelle, de dupliquer le modèle, de programmer les machines pour qu'elle puisse miner ailleurs que dans le wallet propriétaire. Mmh. C'est faisable et c'est facile.
C'est intéressant, ça ouvre des perspectives, Nathalie Janson, si ça fonctionne, bien plus grande pour les organisations humanitaires en réalité.
Oui, enfin, franchement, de ce point de vue-là, je crois qu'il y a pas, enfin, voilà. Pour moi, j'étais vraiment très très attirée quand j'étais jeune étudiante par l'économie de développement et j'en suis ressortie en courant quand j'ai vu en fait tout, enfin, que ça servait pas à grand chose. Enfin, c'est horrible de dire ça, mais qu'en fait, la plupart des fonds allaient dans des intermédiaires, qu'en fait, on savait jamais où ça allait, que tout le monde se plaignait, qu'effectivement, c'est sous-staffé. Enfin, je veux dire, il y avait plein et c'était désespérant parce qu'effectivement, quand on est jeune, on a toujours envie que tout se passe bien. En fait, on se rend compte après que en fait ça se passe pas bien. Donc en effet, cette solution, elle peut quand même être assez elle change complètement le dispositif et honnêtement, elle va convaincre des gens qui ont pu être déçus ou ont pu se poser des questions à travers tous les différents plans de développement qui ont pu exister dans toutes les grandes organisations. Et là, c'est quand même donner un gage qui a pas son équivalent. Enfin, je veux dire, là, si effectivement vous pouvez tracer, vous voyez où ça va. Enfin, je ne vois pas comment vous pouvez avoir de la corruption ou quoi que ce soit. Il y a rien qui peut se passer. Voilà, ça peut se passer que très bien.
Ouais. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui. C'est particulièrement intéressant parce que le sujet ici, c'est ce que j'aime particulièrement dans ce métier et dans le Bitcoin. Ici, le sujet n'est même plus de savoir, in fine, si Bitcoin est un outil spéculatif, si Bitcoin est un outil politique, si Bitcoin sert à autre chose. On touche du doigt une facette de la personnalité de la technologie qui permet de donner le pouvoir de faire le bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de bien agir, il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire. Et en fait, dans le mining, lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a pas que des capitalistes qui vont miner, quand c'est vraiment rentable de le faire, qu'est-ce que ça coûte de donner 1 à 2% de la production quand vous avez des TRI qui dépassent 30%, quand les retours sur investissement sont inférieurs à 2 ans, qu'est-ce que ça coûte de prendre 1 à 2%? En fait, ça coûte rien. Je donne la réponse, ça coûte rien. Donc oui, ça donne très envie de le faire. Ça octroie ce pouvoir et ça révèle d'une facette de la personnalité, de la technologie, et j'en suis très heureux.
Oui, c'est bien quand ça va dans cette direction-là. Ça ouvre aussi, Alexandre, finalement, la philanthropie à un public qui a connu la crypto, un public plus jeune. C'est ça aussi, ça ouvre les perspectives sur les donateurs.
Oui, alors, il y a parmi les jeunes, on disait tout à l'heure avec Nathalie, c'est souvent un âge auquel on a envie de changer le monde, pour le bien, souvent, quand même. Et donc, se dire qu'effectivement, ça correspond aussi à la tranche d'âge. Aujourd'hui, la plupart, la moitié des détenteurs de crypto en France ont moins de 35 ans, alors que ce n'est que 25% de la population. Donc, c'est en règle générale, la variable discriminante dans les détentions de crypto, c'est la jeunesse. Donc, effectivement, c'est aussi une façon... j'allais dire quasiment évidente de dire que si le milieu de la philanthropie, de l'humanitaire veut continuer de parler à un public qui a des moyens de paiement, des actifs qui en fait évoluent, bah, il faut qu'il évolue en même temps parce que sinon il ne va pas évoluer à la même vitesse et il va s'adresser à une population qui en fait, faites-moi un virement, bah, je n'ai pas de compte en banque. Quoi. Donc comment on fait pour donner? Donc il y a cet aspect-là. Après, comme le disait Mylène, ça reste aujourd'hui, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité. Hein. Il y a tous les frottements terrain parce qu'il y a aussi le bitcoiner dont je fais partie souvent, qui peut aussi avoir tendance à dire bah, voilà, il y a la théorie, c'est super bien, le bitcoin va régler la fin dans le monde, ça va être formidable. Ce que je ne dis jamais, mais on comprend l'idée. Et puis ensuite, il y a le terrain, la conformité. On voulait enlever cet intermédiaire, mais en fait, c'est pas trop possible sur place. En revanche, on peut enlever celui-là, et donc ça, c'est très bien.
Ouais.
Mais si on le fait, bah oui, mais comment on fait? Parce que sur place, peut-être que le USDT, ça marche pas, l'USDC non plus, mais peut-être le bitcoin. Et donc, la démarche, c'est une démarche d'humilité, comme le disait Mylène. Oui. C'est le fait de vouloir démontrer que dans un premier test, sur un premier projet, ça fonctionne, que la générosité est au rendez-vous. Donc, le 26, j'espère que la générosité sera au rendez-vous pour ensuite démontrer. Parce que quand on a la démonstration physique que ça fonctionne, bah, en fait, même que ce soit sur place pour l'éducation au sujet Bitcoin ou en France pour démontrer que ça marche, ça devient beaucoup plus facile une fois que le réel démontre que ça marche.
Quoi. Ce sera le 26 mars, cette levée. Comment on fait? On va où?
Alors, on va sur le site agir-planète. agir.planète.eud / Bitcoin for Impact, oui, excusez-moi.
Ou sur le profil LinkedIn de Mylène aller voir. Si vous tapez Bitcoin for Impact, vous allez trouver.
Exactement, vous pouvez me contacter directement, ou sinon sur le site de Planète Enfants et Développement, il faut chercher Bitcoin for Impact, donc notre événement. Et on peut d'ores et déjà recevoir des dons en crypto. Donc,
c'est ouvert.
C'est ouvert et évidemment, on vous attend très nombreux. Sandra, j'espère vous avoir parmi nous aussi pour le 26 mars. C'est vraiment chouette.
Le 26 mars, on le note. Merci à tous les quatre d'être venus parler de cet aspect dont on parle finalement pas si souvent sur une idée originale de Nathalie Janson. Mais oui, ce n'est que le début. Merci à tous les quatre. Nathalie, économiste, professeure à la Neoma Business School, Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie et de la communication chez Bitstack, Mylène Massé, responsable philanthropie chez Planète Enfants et Développement, Sémine Aragon, fondateur et CEO de Start Mining. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.